Bienvenue dans Expat Heroes, le podcast qui vous donne de l'énergie pour relever les défis de l'expatriation. Je suis Christina Philippe Arrojo. Moi-même expatriée pour la troisième fois, en ce moment en Angleterre, j'ai décidé de donner la parole aux francophones expatriés à travers le monde pour qu'ils nous parlent de l'expatriation vue de l'intérieur et surtout, loin des clichés. Quelles sont leurs réussites? Quels obstacles ont-ils surmontés? En quoi l'expatriation les a changés pour la vie? Que vous soyez déjà expatrié ou candidat au départ, vous trouverez dans ce podcast des témoignages inspirants et des conseils avisés pour bien s'adapter et se réaliser à l'étranger. Expat Heroes. S'adapter, se réaliser à l'étranger. Elisabeth Marks est partie seule en expat au Koweït alors que d'autres choisissent New York, les Philippines ou une autre destination de rêve. Elle nous raconte cette première expat au Koweït, un monde à part où on n'a pas de problème et où on peut mener une vie de luxe. Pourtant, le luxe du Koweït ne lui a pas fait perdre le sens des réalités. Au contraire, Elisabeth a pris conscience que le Koweït est une parenthèse dans le monde et que pour être heureuse, elle a besoin de revenir à l'essentiel en France auprès de ses proches. Départ immédiat pour le luxueux Koweït entre puissance libératrice de l'argent et quête d'essentiel, c'est tout de suite dans Expat Heroes. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Christina.
Tu es professeure des écoles en classe de maternelle dans un lycée français au Koweït. Est-ce que tu étais déjà prof en France et comment tu t'es retrouvée là-bas?
En France, j'étais professeure de français langue étrangère, donc prof de FLE. Le problème, c'est que c'est une voie qui est très bouchée. C'est difficile de trouver du travail en tant que prof de FLE, encore plus en France. Donc moi, je trouvais seulement des stages et je donnais quelques heures de cours du soir. Et le problème, c'est qu'à 26 ans, il était peut-être temps de partir de chez mes parents. Donc j'ai postulé partout dans le monde. Donc j'ai postulé dans des pays qui vendent beaucoup plus de rêves que le Koweït. J'ai postulé en Thaïlande, j'ai postulé à Bali, à New York, partout. Et j'ai postulé au Koweït à la base comme une blague parce que mon père a travaillé là-bas quand il était jeune. Et donc, je me suis dit, ce serait marrant que j'aille sur tes pas. Et au final, c'est donc le lycée qui m'a appelé pour me proposer un poste en grande section de maternelle. Et je me suis dit, on va tenter l'expérience.
Et au Koweït, un prof peut vraiment bien gagner sa vie. Hein. C'est 60 euros de l'heure pour un cours de français, c'est ce que tu m'apprenais en préparant l'interview. Et les médias disent que le Koweït, c'est le nouvel Eldorado. Et en vrai, c'est comment, si tu devais choisir trois mots pour décrire ce pays?
Moi, si je devais choisir trois mots pour décrire le Koweït, je dirais chaud, sec et tranquille. Chaud parce que dès la fin du mois de mai, on monte sur des températures à plus de 40 pour aller jusqu'à 50 apparemment pendant l'été. Donc, moi, je suis déjà montée dans ma voiture et j'ai vu 54 degrés sur le thermomètre à l'intérieur de ma voiture. Donc, on est plus proche du saumon que de l'être humain à certains moments. Sec déjà parce que il y a pas de rivière, il y a pas de lac et il y a pas d'alcool. Il y a pas du tout d'alcool, donc au début on se dit ah non ça va aller et finalement tu réalises que l'alcool dans la culture française c'est quand même très très présent et que c'est le sujet dont tout le monde parle. Tous les Français quand ils se retrouvent parlent du vin qui leur manque, de la bière qui leur manque et en dehors de l'alcool c'est tu vois les apéros en terrasse, c'est toutes ces choses là plutôt qui manquent. Et tranquille parce que la vie au Koweït est vraiment très, très, très tranquille. Donc, pour certains, peut-être trop. Donc, moi, je dis tranquille, mais certains diraient plutôt ennuyeux. c'est vraiment très lent. Je pense que c'est relatif au pays chaud, quoi. Mais chaud, sec et tranquille.
D'accord. Je lisais dans ton blog que, justement, tu avais des sièges pour te refroidir les fesses. Je devrais pas le dire comme ça, mais on a des sièges normalement chauffants dans les pays du froid. Moi, je me rappelle en Suède, j'avais des sièges chauffants. Bon, a priori, on connaît, mais alors les sièges qui refroidissent, ça, c'est étrange.
Dans ma voiture, les sièges ont l'air conditionnés. Et en fait, tu sais, c'est le bas du dos et en effet, les fesses. Et franchement, c'est très agréable.
Donc, tu es arrivé à l'été 2015 au Koweït. Qu'est-ce qui t'a étonné les premiers mois, à part les sièges qui refroidissent le derrière.
J'avais pas encore de siège qui refroidissait le derrière à ce moment-là. Je connaissais pas ce plaisir.
Alors, les premiers mois.
Franchement, ce qui est le plus étonnant, c'est qu'il fait très très chaud, puisque quand je suis arrivée, il faisait 47 degrés. Ouais. Et surtout qu'au Koweït, le rythme est décalé, c'est-à-dire que les gens vivent la nuit. Donc en fait, tu passes des journées où il n'y a personne dehors, parce qu'il fait, bah, il fait très chaud en fait. Et donc, on attend que le soleil se couche pour commencer un peu à sortir. Il fait toujours très chaud, mais comme le soleil ne tape pas, tu as une impression, je ne vais pas dire de fraîcheur, mais presque quoi. Et aussi, le Koweït n'est absolument pas fait pour les piétons. Donc, quand moi, j'étais en région parisienne, donc je pouvais tout faire à pied ou en transport en commun. Et ben là, il n'y a pas de transport en commun du tout. Il n'y a même pas de trottoir pour marcher. Donc, c'est vraiment une façon de vivre complètement différente quand tu es habitué à être piéton, quoi. Pour moi, c'était ça le plus étonnant et le plus bizarre, parce que tu peux vraiment rien faire à pied. Rien. Il n'y a rien.
Tu disais, on vit la nuit au Koweït, et donc sans alcool, parce que tu disais que c'était sec, hein, comme pays, au sens propre et au sens figuré, et que il faisait la fête sans alcool, et ça, c'est une différence avec la France, hein, parce que la culture française, c'est la bonne bouffe et bien boire aussi. Il y a d'autres différences culturelles avec la France qui t'ont marqué au Koweït ?
Ouais, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Déjà, les relations sociales, comment on appréhende les relations sociales, c'est vraiment très, très différent. Et surtout, moi, ce qui m'a vraiment étonnée au Koweït, c'est que les gens vivent en tribu. Ils vivent en famille, et en tribu et en communauté. Donc, en fait, tu le ressens vraiment énormément. Parce que si, par exemple, tu rencontres quelqu'un qui fait du yoga, donc voilà, vous avez commencé à parler yoga, et après, tu vas rencontrer ses amis, mais seulement ses amis du yoga. D'accord. Donc, ses amis d'autre chose, tu auras moins de chances de les rencontrer, en fait. Parce qu'ils fonctionnent vraiment en famille et vraiment en communauté. C'est assez marrant à voir.
Pardon, je te coupe, mais du coup, c'est pas les amis de tes amis sont mes amis, du coup, ça marche pas.
Franchement, c'est super bizarre, parce que moi, j'ai vraiment l'impression que les gens fonctionnent en famille et vraiment en communauté. Alors bon, après, j'ai pas non plus des milliers d'amis au Koweït, et de base, je fais pas partie d'une communauté, donc c'est bizarre, parce que par exemple, tu vas rencontrer un Koweïtien, ses meilleurs amis, il les connaît depuis toujours. Mais depuis qu'ils sont petits et ils ont vécu dans le même quartier, ils se retrouvent dans les diwania, donc que les hommes. Les diwania, c'est les salons pour hommes. Mm-hmm. Et en fait, ils se retrouvent là-dedans. Et puis parfois, le lundi, un homme va aller dans une certaine diwania. Le mardi, il va aller dans une autre diwania. Les hommes des deux diwania différentes vont rarement se rencontrer, j'ai l'impression. Ils vont se connaître, ils vont savoir, parce que le Koweït, c'est très petit. Mais le lien famille-tribu est très important. Ce qui fait que, par exemple, si moi, je fais quelque chose de mal, j'impacte pas seulement moi, j'impacte toute ma famille derrière. Mm-hmm. Donc, tu portes la charge de ton nom de famille aussi, pour les Koweïtiens uniquement, plus pour les Koweïtiens en tout cas, qui a l'air quand même relativement difficile à porter, quoi. Mm-hmm. Donc après, je pense que les amis de tes amis sont mes amis, mais avec certaines limites, quoi.
Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres différences qui t'ont marqué ?
La générosité et la manière de vivre des Koweïtiens, c'est assez exceptionnel. Je pense que c'est pour deux raisons, parce que c'est un pays très religieux, et ensuite parce qu'il y a toute cette idée de communauté. Donc moi, quand je suis arrivée au Koweït, j'étais toute seule, et c'était impossible pour quiconque au Koweït de me savoir toute seule. Donc même aujourd'hui, si je suis malade, je vais avoir 15 mamans d'élèves. Donc, qui ne sont pas des amis, qui sont des mamans d'élèves, qui vont me demander si ça va, si j'ai besoin de soupe, si j'ai besoin de médicaments, si j'ai besoin de... Tout le temps, dans l'aide, et sans rien attendre derrière. C'est vraiment... c'est gentil, quoi. Enfin, c'est vraiment... C'est toujours de bon cœur. Et c'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup retrouvé en France, ou en tout cas en région parisienne. C'est peut-être autrement ailleurs, je ne sais pas, mais je n'ai pas retrouvé cette... cette attention à l'autre. Il mange beaucoup avec les mains aussi.
Ouais, ça, c'est une grosse différence, effectivement. Est-ce qu'être une Française au Koweït, c'est un atout ?
Franchement, ouais, c'est clairement un atout. Déjà, être une fille au Koweït, c'est un atout. D'accord. Être une Française célibataire au Koweït, c'est un énorme atout. C'est vraiment... Alors, c'est un atout et un inconvénient, parce que... je sais que les garçons souvent vont être là pour me draguer. Et en même temps, c'est un atout parce que je fais rarement la queue dans les files d'attente, par exemple. On va souvent me laisser passer devant. Il y aura toujours quelqu'un pour m'aider dans des situations un peu compliquées parce que si je suis moi la seule entourée d'hommes, on va toujours me sortir de là. Quand un douanier ou un policier voit français sur ma carte de résident, ça y est, j'ai l'impression que je pourrais être en train de brûler quelqu'un, qu'on me dirait, allez, ça va, c'est pas grave,
Oh
bonjour,
là
Zinedine Zidane, la Tour Eiffel.
là.
J'exagère, mais il y a un côté, les Koweïtiens aiment bien les Français, généralement. C'est plutôt cool.
Qu'est-ce qu'il y a à faire au Koweït à part le shopping? Parce qu'il paraît que il y a un grand centre commercial que j'ai lu sur ton blog, hein, parce que je connais rien au Koweït moi, mais The Avenues, c'est ça? Qu'est-ce qu'il y a à faire à part le shopping alors?
Franchement,
Tu peux pas faire du sport du coup parce qu'il fait trop chaud. Tu peux pas faire du sport dehors en tout cas.
moi je fais du sport, mais le matin,
Ok.
au lever du soleil. Pendant l'été, à 4h30 du matin, je vais courir.
Wow.
Sinon, tu peux le soir. Il y a beaucoup de gens qui font du soir très tôt le matin ou plutôt tard le soir. Il y a des salles de sport partout, 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 partout. C'est un gros business au Koweït, les salles de sport. Tu peux faire du shopping, oui, tu peux manger aussi. Il y a beaucoup de restaurants, tous les restaurants du monde, il y a tout ce que tu veux. Sinon, après, c'est des activités que moi, je n'ai pas du tout l'habitude de faire. Donc, tu peux faire de l'équitation, tu peux faire à peu près n'importe quel sport que tu veux. Ben, après, il faut avoir de l'argent, en fait, parce que
Ouais.
des choses à faire gratuites, franchement, il n'y en a pas beaucoup. Une fois que tu as de l'argent, tu peux avoir accès aux meilleurs clubs, des grands hôtels, tu sais, et il y a tout dedans.
Ouais.
Tu peux, je sais pas, faire du tir, de l'équitation, du kart, du paintball, à peu près pas tout, ce serait pas vrai de dire tout, mais il faut vraiment être capable de changer sa façon de voir la vie. En fait, quand tu es une Française ou un Français et que tu arrives au Koweït, il faut vraiment mettre ton cerveau en reset, parce que de ce que j'étais habituée à faire en France, au Koweït, il n'y a pas. Y a pas, c'est vraiment une autre façon de vivre, quoi. Donc, moi, si tu veux, en arrivant au Koweït, je me suis mise du coup à courir parce que je courais pas trop en France. J'ai appris à faire de la couture. J'ai appris à faire plein de trucs comme ça chez moi. Je colorie beaucoup, je dessine, je fais de la couture, je tiens mon blog à peu près correctement. Je vais sur mon compte Instagram. Enfin, plus des trucs pour moi seule, quoi. Mais après, très honnêtement, il y a tous les sports possibles et imaginables. Et l'avantage du Koweït, c'est que comme c'est petit, tout est globalement regroupé. Donc, tu vas avoir peut-être 30 minutes de route maximum pour aller où tu veux, quoi.
Mais avec le coronavirus, du coup, ça change un peu la donne, hein, j'imagine, avec le confinement en ce moment. Parce qu'en plus, tu disais, ils vivent en communauté avec leurs amis, ils mangent avec les mains en plus, ils se passent les plats. Comment ça se passe, du coup?
Le confinement, en fait, la plupart des Koweïtiens, les Koweïtiens, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont des chalets. Donc, eux, ils appellent ça des chalets, mais c'est en fait des maisons au bord de mer qui n'ont rien à voir avec un chalet, c'est plutôt un château. Mais moi, j'avais en tête une petite maison en bois, tu sais, un petit chalet dans la montagne. Et en fait, c'est des châteaux en
Vraiment.
bord de mer. C'est des maisons énormes avec piscine au sous-sol, piscine à l'extérieur, accès sur la mer. C'est des vraies maisons de vacances. Et en fait, la plupart des familles koweïtiennes sont allées en confinement, soit dans leur chalet au bord de mer, donc, soit dans des fermes où c'est pareil. Moi, j'imaginais des petites fermes, tu sais, des petites fermettes, quoi, ou alors des fermes les pieds dans la boue. Et en fait, non, non, j'ai un ami koweïtien qui a une ferme avec des pur sang arabes.
Oh là là.
Il a 8 pur sang arabes, une centaine de chèvres, des poules, 3 chiens. Le confinement est plus facile quand on a un Koweïtien dans son chalet ou dans sa ferme, quoi.
Ouais, clairement.
La plupart sont allés se confiner en famille, ouais. Et en fait, d'ailleurs, c'était assez marrant parce que la première étape du gouvernement, ça a été de fermer les écoles. Et du coup, t'avais un véritable air de vacances au Koweït. Donc, moi, j'allais marcher très tôt le matin ou courir et je voyais des familles entières qui faisaient des pique-niques au bord de la mer, mais vraiment ambiance vacances, quoi, pas du tout ambiance confinement.
Ouais.
Et donc la deuxième étape du gouvernement, ça a été de fermer tous les parcs, toutes les promenades, tous les endroits où les gens pouvaient se réunir. Et ensuite, du coup, les gens se réunissaient dans les malls. Donc il y avait plus de restaurants, mais les gens allaient quand même par groupe de 5, 6, 10 dans les malls pour discuter. Donc en fait, tu sais, tu te rends compte de l'importance de la communauté à ce moment-là.
Ouais.
La dernière étape du gouvernement, ça a été de mettre un couvre-feu de 17h à 6h du matin.
Ouais.
Pour être sûr et certain que personne ne va dans les diwanias dont je te parlais plus tôt. Parce que ça, c'est pareil, c'est interdit. La rumeur dit que la police est allée chercher les gens dans leur diwania pour qu'ils arrêtent, quoi.
Et parce qu'il y a des amendes aussi, d'ailleurs. Ils ont des amendes parce qu'il y a de l'argent. Donc, du coup...
Ah non, et c'est des amendes, très, très honnêtement, c'est très élevé.
Okay.
J'ai peur de dire des bêtises en disant les prix. La plus grosse amende, je crois qu'elle est de 30 000 cadets, donc c'est 90 000 euros.
Oh, ah ouais, d'accord. Hyper dissuasif.
Ouais. Et ça, et attends, et celle-ci, cette amende-là, c'est si jamais tu sais que tu as le coronavirus et que tu le caches.
Oh ouais, d'accord. Ok. Ambiance.
90 000 euros, c'est énorme.
Ouais. Ouais, c'est énorme, c'est clair. Bon, parenthèse fermée sur le coronavirus.
Oui.
qu'est-ce qui t'agace au Koweït et au contraire que tu adores? Parce que c'est un peu un autre monde, là. On dirait Beverly Hills, la villa au bord de la mer, les voitures de sport, c'est... Voilà.
En fait, c'est très marrant parce que ce qui m'agace et ce que j'adore, c'est exactement la même chose. Cette façon, justement, d'être dans un autre monde.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui adore parler avec des Koweïtiens où tu as l'impression qu'ils n'ont jamais eu de problème parce que leur vie est très facile.
Ouais.
Donc, tu as ce côté où tu n'as pas de problème, où tu es vraiment privilégié. Et en fait, ça m'agace vraiment parce que tu es face à des gens qui ne réalisent pas à quel point ils sont privilégiés, en fait.
D'accord.
Du coup, même moi, parfois, je ne réalise pas à quel point je suis privilégiée aussi. Mais c'est vraiment... en fait, c'est très reposant d'être dans une situation où vraiment... Les problèmes, c'est quelque chose que je n'ai quasiment plus dans ma vie depuis que je suis arrivée au Koweït, quoi.
Mais quand tu dis ils réalisent pas, en fait, les privilèges qu'ils ont, ils se plaignent jamais, du coup?
Ah si. Ils vont se plaindre, en fait, de choses que moi, de mon point de vue de française, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse s'en plaindre, quoi. Par exemple, j'ai un ami qui se plaint régulièrement parce que pour aller travailler, il a 30 minutes de trajet. Sauf que minutes de trajet en région parisienne, c'est le pied, quoi.
Ouais.
C'est rien. Donc, voilà, moi, je me dis, mais attends, comment tu peux te plaindre de n'avoir que 30 minutes de route aller et retour, hein? Donc, 15 minutes aller, 15 minutes retour. Mais il va me dire que non, c'est trop long, que ça va pas. Ou alors, tu vois, par exemple, j'ai un autre ami qui se plaint de l'endroit où il a fait ses études parce que c'était pas pour lui, c'était pas une assez bonne université. Sauf qu'en fait, au Koweït, ta scolarité, elle est payée de A à Z. Donc, cet ami qui est parti faire sa scolarité à l'étranger, ça a été payé par le gouvernement complètement.
Ah ouais.
Avec l'université payée, il donne de l'argent tous les mois et il donne de l'argent tous les mois pour le minimum pour vivre et de l'argent pour s'installer. Donc, t'as l'occasion de faire ta scolarité dans des universités américaines. Ben, moi, je m'en plaindrais pas, en fait.
Ouais.
Payé par le gouvernement, je serais revenue avec mon diplôme en poche sans jamais m'en plaindre. Et en fait, non, c'était pas assez bien, c'est pas assez ceci. Au quotidien, ils vont pas se plaindre, si tu veux, mais c'est quand tu commences à aller un peu plus profondément, où finalement, la vie dans laquelle ils sont et la vie qu'ils mènent, si elle ne leur convient pas, c'est pas de leur faute. Ce sera toujours de la faute à quelqu'un d'autre, ce sera toujours la faute de quelque chose extérieur à eux, sur laquelle ils peuvent mettre beaucoup de responsabilités. Et s'en plaindre alors que ça leur a été donné, voilà, sans rien entendre en retour, en fait. Sinon, franchement, c'est un pays où il fait bon vivre et où, finalement, même ce qui m'agace, je m'en accommode. J'ai vraiment de la chance, en fait.
Oui, ça peut être à la fois, je peux comprendre qu'on peut s'y plaire et à la fois, ça peut être agaçant. Et d'ailleurs, tu m'écrivais, hein, c'est comme ça qu'on a fait connaissance, Elisabeth, tu m'écrivais en réaction à l'épisode 61 avec Pambo, qui, elle, habitait en République centrafricaine. Et elle, la pauvreté de ce pays l'a fait revenir à l'essentiel. Et toi, tu me disais que un pays riche, le Koweït, donc ça t'a aussi fait revenir à l'essentiel. Comment tu l'expliques, Elisabeth?
Alors moi, quand je suis arrivée, donc, je partais de chez mes parents pour arriver au Koweït. Donc tout de suite, je suis arrivée dans un grand appartement. Tu sais, je ne suis pas passée par la case petite chambre. Non, ça a tout de suite été un grand appartement au bord de mer. J'ai pu très rapidement m'acheter une voiture de course.
Dingue.
Ouais, genre une grosse voiture, une américaine que tu vois que dans les films, quoi. Et au début, j'étais vraiment, j'avais l'impression que le monde m'appartenait, quoi. Parce que je pouvais partir en vacances où je voulais, je pouvais prendre l'avion. Enfin, à chacune de mes vacances, allez, tu prends l'avion, tu vas à tel endroit, tu vas à tel endroit. T'as cette impression de liberté au début que t'apporte l'argent, qui peut être un peu enivrant. Et en fait, une fois que j'ai acheté ma voiture de course, j'ai réalisé que c'était bien d'avoir une voiture de course, mais je pouvais avoir plus puissant. Que j'ai eu mon appartement qui était grand, mais je pouvais avoir encore plus grand. Tu te rends compte que c'est jamais assez, en fait. C'est bien d'avoir une vie confortable, hein, je dis pas. Je m'en plains pas, c'est pas du tout ça. Mais typiquement, le coronavirus, c'est un très bon exemple parce qu'aujourd'hui, je peux avoir tout l'argent que je veux. Je suis enfermée chez moi, en fait. Et moi, j'aurais aimé être dans la nature, j'aurais aimé être dans un jardin, j'aurais aimé pouvoir manger des trucs de mon potager et manger des trucs de qui poussent sur des arbres. Et en fait, là, j'ai beau avoir tout l'argent que je veux, je suis complètement dépendante d'un système et d'une société. Et puis, je suis sans ma famille, je suis sans mes amis de France que je connais depuis toujours. Ma mère est loin. Enfin, tu vois, c'est que t'as beau avoir des sous, t'as beau avoir une bonne paye, c'est très bien, mais c'est pas ce qui va te rendre le plus heureux au final.
Et cette prise de conscience, elle a commencé avant le coronavirus. Hein. Tu écrivais dans ton blog que j'avais parcouru que tu avais fait Saint-Jacques-de-Compostelle, en fait, le pèlerinage.
Ouais.
Comment ça t'est venu à l'idée, ça aussi ? C'est justement par rapport à toute cette richesse qui t'entourait ou...
Bah alors moi, c'est le pèlerinage, je voulais le faire depuis très très longtemps. Le truc quand tu vis au Koweït, c'est que t'es vraiment dans une bulle, t'es dans une bulle de confort. Enfin, encore une fois, ça dépend de ton métier, ça dépend de ton niveau dans la société. Donc, en fait, moi, je suis vraiment dans une bulle de confort où, comme je te disais, j'ai pas de problème, où j'ai de sous et où, voilà, globalement, la vie roule tranquillement. Mais ça veut dire que je suis perpétuellement dans ma zone de confort. J'ai rarement peur, je suis jamais en danger, j'ai jamais rien à perdre. Voilà, je me lève le matin, je vais au travail, l'après-midi, je fais ce que j'ai à faire et puis c'est tout, quoi. Mmh. T'as une grande sécurité. Et en fait... Moi, je me disais, mais il faut que tu fasses quelque chose, quoi. Et depuis que je suis au Koweït, j'ai fait le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais j'ai aussi fait Paris-Deauville à vélo. Et tu vois, je suis vraiment dans une recherche de moi, si tu veux, tu vois. Me faire un peu souffrir pour revenir à moi. Mm-hmm. Parce que ça me semble très important. Et ici, c'est vraiment quelque chose que je suis très heureuse d'avoir la chance de le vivre. Et quand je serai plus vieille, je m'en souviendrai. J'ai bien conscience que je pense que la vie au Koweït, c'est une parenthèse dans le monde, quoi. Mmh. C'est vraiment la sécurité, le confort, la tranquillité.
Et du coup, est-ce que tu dirais que c'est facile de s'expatrier et de s'intégrer au Koweït ? Parce que, enfin, il y a des auditeurs qui doivent se dire « Waouh, mais c'est le bon plan, quoi. Si c'est en première expat, c'est le bon plan. » Tu dirais que c'est une bonne première destination ?
Je pense que ça dépend vraiment, vraiment, vraiment des caractères. Et des personnalités, parce qu'en fait, il y a pas mal d'expats qui arrivent ici, qui restent un an et qui repartent, parce que quand même, le Koweït, c'est un grand pays de solitude, parce que en tant qu'étrangère, c'est très difficile pour moi de rentrer dans le vrai Koweït. Mm-hmm. Si tu es d'accord avec la solitude, oui, c'est plutôt sympa de s'expatrier au Koweït. Mm-hmm. Si tu es quelqu'un de très extraverti, qui a besoin de sortir beaucoup, qui a besoin surtout de voir des choses différentes, le Koweït peut être très compliqué. Parce que le Koweït, en fait, c'est comme vivre sur une île, sauf que c'est une île un peu pourrie, quoi. Parce que c'est du sable partout. Donc, si t'as un bateau ou si tu connais quelqu'un qui a un bateau ou si t'es d'accord pour faire les excursions qui t'emmènent jusqu'à l'île qui est un peu plus loin, qui s'appelle Kubar Island, oui, c'est sympa. Mais sauf qu'en fait, Kubar Island, c'est un banc de sable au milieu de nulle part. Mais ça ressemble un peu plus à de la nature. Si t'as pas de bateau ou si tu connais pas quelqu'un qui a un bateau, ce sera compliqué pour toi d'aller là-bas. Le Koweït, si tu connais les bonnes personnes, ça peut être génial. Si t'as pas la chance de les rencontrer, ça peut être un enfer.
Ouais, ça me fait penser. Là, j'ai eu un flash terrible. Donc j'ai deux garçons et en fait, je revois Pinocchio. Tu sais quand il est attiré dans l'île et il se transforme en âne. Il rencontre pas les bonnes personnes non plus. Bon bref, excusez-moi. C'est le confinement, ça me rend un peu dingo. Ok.
Je pense que c'est exactement ça, tu vois. Si tu rencontres pas les bonnes personnes, tu peux te transformer en âne.
Bon, en fait,
ça peut être une très bonne expatriation si t'es prête au changement et si t'es prête à la difficulté de la première année. Parce que franchement, la première année, c'est difficile. Ça dépend du package que tu as quand tu es embauché. Ça dépend de l'entreprise qui t'embauche. Hein.
Ouais.
Mais moi, quand je suis arrivée, par exemple, bah, je n'avais pas de permis de conduire. Donc, tu imagines que sans permis de conduire au Koweït, tu tournes vite en rond.
Ah ouais.
Et donc, je suis arrivée en août et j'ai eu mon permis de conduire en février. Et j'ai commencé à conduire en mars parce que j'avais peur, parce que les gens ici roulent comme des malades. Et donc, en fait, de septembre à mars, ma vie était vraiment… c'était entre l'école et le chez-moi. Et c'est super déprimant, quoi, parce que tu dois vraiment revoir toute ta façon de penser, toute ta façon de vivre et tout ce que tu avais l'habitude de faire. Parce qu'en fait, vraiment, tout change. C'est vraiment très, très, très différent de la France. Après, tu vois, il y a des Français qui sont là depuis 20 ans, malheureux comme les pierres, mais la situation financière dans laquelle ils sont font qu'ils y restent. Et tu as des gens qui restent ici une année scolaire et qui en repartent parce que pour eux, c'est invivable, quoi.
Comment ça se passe d'ailleurs les relations sociales au Koweït? Est-ce que tu as réussi à te faire de vrais amis? Enfin, je sais que c'est le sujet de l'amitié en expatriation, c'est compliqué, se faire de vrais amis ou même à trouver l'amour, dis-nous.
C'est compliqué déjà parce que moi je suis un ours, donc je sors peu, donc évidemment c'est pas en restant chez moi que je vais rencontrer des gens. Par contre, les gens sont très actifs sur les réseaux sociaux, donc moi je parle à beaucoup beaucoup de monde sur Instagram. Par exemple, que après je rencontre ou je vais boire un café, dîner ou marcher ou faire du sport ou qu'importe. Les Koweïtiens sont plutôt faciles d'accès et plutôt sympas. Globalement, c'est plutôt facile de rencontrer des gens. Après, des vrais amis, c'est rare. Je sais pas parce que j'y suis encore. Donc, si tu veux, c'est compliqué, tu vois, parce que j'avais rencontré quelqu'un au début quand je suis arrivée ici. On s'entendait très, très bien. Et après, on s'est vus en France et ça a été une catastrophe. En fait, finalement, c'était nos personnes expatriées qui s'entendaient bien, mais nos personnes à la maison ne s'entendaient pas bien du tout. Donc moi, je me pose toujours la question de est-ce que les gens avec qui je suis aujourd'hui, si on s'était rencontrés en France, est-ce qu'on serait amis, tu vois?
Ouais.
Est-ce qu'on restera amis si jamais on quitte le pays? Franchement, c'est un peu particulier.
Ouais.
Pour l'amour, écoute, j'ai été un petit bout de temps avec un Koweïtien, mais en fait, c'est très compliqué parce que les différences culturelles sont vraiment trop, trop grandes. Et en fait, je serai jamais une Koweïtienne, quoi. Donc, il y a un moment où tu sais que tu es dans une relation avec quelqu'un et il y a quand même peu de chances que ça aille plus loin que ce que c'est actuellement. Et si ça va plus loin, je suis pas sûre que la vie qu'on a à me proposer, en fait, c'est une vie qui me conviendrait ici. Parce que c'est une vie, comme je te disais, très tranquille et dans une zone de confort perpétuel. Et autant c'est rigolo pour une durée déterminée. Par contre, pour toute la vie, je ne sais pas trop. Peut-être dans un chalet, ouais, je ne sais pas.
Bon, du coup, tu nous as un peu donné la réponse, hein, mais est-ce que tu te vois t'installer au Koweït pour de bon?
Moi, mon rêve ultime, ce serait de vivre entre le Koweït et la France. De novembre à avril, être au Koweït et après, le reste en France.
Une vie de retraité, quoi.
Bah ouais.
6 mois dans un pays, 6 mois dans un autre. Ok.
Exactement. Après, le truc, c'est qu'au Koweït, je sais que j'aurai jamais la résidence, par exemple. Donc, si jamais je veux rester ici, il faut que je me marie avec un Koweïtien. Et si je me marie avec un Koweïtien, bah, j'oublie le côté 6 mois en France, 6 mois au Koweït. Et on irait plutôt sur du 12 mois au Koweït, quoi. Donc, je suis pas tout à fait sûre que j'ai envie de passer ma vie de potentiel marié retraité tout le temps au Koweït, si tu veux.
Oui. Du coup, tu es arrivée avec un visa. On n'en a pas parlé, Elisabeth. Comment ça se passe, niveau papier?
Moi, je suis arrivée avec un permis de travail et ensuite, on m'a fait ma résidence pour 1 an. Quand tu as renouvelé pendant 3 ans ta résidence, après, tu peux la renouveler pour 2 ans. Donc là, moi, ma résidence, elle a été renouvelée en 2018 et elle s'arrête en 2020. Donc, il faut que je la renouvelle là cette année. Et sinon, bah, quand tu viens en touriste, c'est soit tu as un visa d'un mois, soit tu as un visa de 3 mois. Ça dépend de ce que tu remplis. Mais pour avoir la civil ID, la carte de résidence, c'est super compliqué avant de venir au Koweït et en arrivant au Koweït, ça prend beaucoup de temps.
Ouais, donc prendre un billet d'avion pour le Koweït et puis chercher du boulot sur place, c'est pas, je te déconseille, quoi.
Non, bah, franchement, je sais qu'il y en a qui le font. Je sais qu'il y a des gens qui sont ici depuis 7, 8, 9 ans en visa touriste, hein, par contre. Mais bon, ça, c'est mieux si tu connais quelqu'un qui peut t'héberger, parce que si tu as un visa tourisme, bah, ça va être compliqué pour avoir un compte en banque, ça va être compliqué pour trouver un logement. En fait, ça va être compliqué pour tout. Et puis, voilà, c'est pas très légal comme situation. J'imagine que tu peux te dire, bon, bah, je viens au Koweït en visa tourisme parce que je vais aller vivre chez un tel et en fait, je vais donner que des cours particuliers de français l'après-midi et je vais vivre là-dessus. Voilà, ça peut se faire, mais franchement, je déconseille, quoi, parce que c'est même pas marrant comme vie.
Non.
T'es obligé tous les 3 mois d'aller faire un visa run à l'extérieur. C'est pas agréable, quoi.
À moins d'être dans un chalet, château, villa, enfin, on sait plus comment. l'expliquer, ce truc. Bon.
Ouais. Il faut le voir pour le croire. Hein.
Alors, ça donne envie, hein, comme ça, sur le papier, hein, l'expatriation, ouverture d'esprit, curiosité, découverte, donc les chalets, châteaux. Mais pourtant, il y a des mauvais côtés, hein, tu l'as dit un petit peu, ta famille te manque. Et bah, les gens restés en France, les amis, la famille, bah, ils ont du mal à comprendre. Et surtout, bah, ils vont nous balancer, bah, c'est la vie que tu as choisie, en fait, donc tu assumes. Et tu en parles très bien dans un de tes articles de blog qui s'intitule « La culpabilité de l'expatrié ». Est-ce que tu peux nous en parler ?
Moi, j'ai écrit cet article, il me semble, si je dis pas de bêtises, après la naissance de ma nièce, ou en tout cas, la naissance de ma nièce, ça a été la première gifle où, tu vois, j'ai pris conscience de ce que j'avais fait, en fait. Alors que ça faisait déjà quelques temps, puisque ça faisait déjà 2 ou 3 ans que j'étais au Koweït, donc j'étais quand même bien installée. Mmh. J'ai appris que mon frère allait être papa en juillet, et après, elle est née, quoi. Mmh. J'ai trouvé ça horrible parce que je me suis dit, mais attends, mais des caissières de supermarché vont voir ma nièce avant moi. Des gens au supermarché vont voir, mais des inconnus vont voir ma nièce avant.
Ouais, ouais.
Tu sais, c'était une claque, quoi. Et en même temps, c'est vrai que quand tu commences à t'en plaindre, quand tu commences à expliquer que t'es un peu triste de la situation, les gens te disent juste, non, mais c'est pas grave, tu vas revenir, non, mais quand tu rentreras, non, mais quand tu... Comme physiquement, tu n'es plus dans le quotidien, et bah, ta propre vie, c'est comme une parenthèse pour tes proches. Donc, eux, ils ne réalisent pas trop ce que tu vis. Mm. Surtout que pour la plupart des gens, le Koweït, ça n'existe même pas comme pays. Donc, c'est très, très flou. On a du mal à s'imaginer que je vis ici. On a du mal même, j'imagine, à imaginer comment je vis ici. Donc, ce qui fait que bah, je suis en dehors de cette vie. Je culpabilise de ça parce que je loupe plein d'événements. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui sont décédés ou j'étais pas là. Mm. Des gens qui sont nés, j'étais pas là. Des amis à moi qui ont vécu des expériences difficiles où j'étais pas là. Et t'as toujours cette impression, enfin moi en tout cas, j'ai toujours cette impression d'être en dehors des choses, que moi je culpabilise, mais que bah, le monde, le reste, mes proches, mon entourage, le vivent bien parce qu'en fait, pour eux, je vais revenir. Mmh. Et que je rattraperai à ce moment-là. Sauf qu'après, à chaque fois que tu reviens, t'es toujours en dehors, quoi. T'es plus à ta place, en fait.
Ouais.
C'est très difficile comme sentiment, c'est très difficile de revenir. Moi, par exemple, je vais en France chez mes parents pour Noël et pour l'été. Et il se passe quand même 6 mois à chaque fois entre les deux. Donc, quand j'arrive en juillet, bah, en fait, déjà, ils n'ont pas arrêté de vivre. Personne ne m'attendait. Mm-hmm. Et surtout, la vie a continué. Et c'est pas Netflix, quoi. Il n'y a pas, quand j'arrive à l'aéroport, il n'y a pas un mec qui vient me dire « Voilà ce qui s'est passé pendant les 6 mois, rattrape, tu vois. » Ça m'aiderait bien.
Ça, c'est une idée de business. C'est une idée.
C'est clair. Et en fait, t'arrives, moi je me sens toujours un peu comme un cheveu sur la soupe au début. Tout le monde est très content de m'accueillir, tout le monde est très content de me voir. Ouais. Mais il y a quand même eu 6 mois de blanc, quoi. Mmh. Et je me dis tout ça à cause de ma décision et uniquement ma décision que j'ai prise très égoïstement, sans en parler à personne, juste en disant bah voilà, je pars, quoi.
Ouais, ouais. Bah après, voilà, il faut jamais oublier pourquoi aussi on l'a fait. Et puis. Voilà, tu peux rentrer et on a plusieurs vies finalement, hein, donc il faut quand même assumer, mais c'est vrai que c'est pas simple.
On a plusieurs vies, mais l'expatriation, c'est une vie que tu peux pas partager avec les gens qui sont restés en France.
Ouais.
Tu peux expliquer, tu peux raconter, mais en fait, t'es face à des gens qui auront toujours un peu mal à comprendre ce que tu vis exactement, quoi.
Est-ce que cet expat au Koweït t'a donné bah, justement des ailes pour repartir ?
Eh bien non, absolument pas. C'est une chouette expérience, mais très honnêtement, moi je ne m'infligerais plus cette difficulté à l'arrivée de ne pas savoir où t'es, de connaître personne, d'avoir aucune habitude, de rien savoir, de rien connaître, de ne pas comprendre ce qui se passe, parce qu'en plus, je ne parle pas l'arabe et je parlais très mal anglais. J'étais littéralement perdue en fait, et surtout j'ai été très seule pendant longtemps. Et ça, je ne me l'infligerai plus. Je sais que le jour où je décide de quitter le Koweït, c'est vraiment pour me poser en France, pour m'installer en France et pour avoir une petite vie bien tranquille en France. Tous les voyages que j'ai pu faire avant le Koweït et pendant le Koweït, mon expatriation au Koweït, m'a fait prendre conscience à quel point pour moi c'était important d'avoir un endroit à moi où me poser, d'un chez moi. Mais j'en parle pas mal sur mon blog ou sur mon compte Instagram. C'est vraiment quelque chose, moi, qui me tracasse, cette idée d'avoir un chez-soi, de se sentir bien quelque part. Et en fait, moi, j'ai réalisé que où je me sens bien, c'est en France, parce que c'est, comment dire, en fait, j'appartiens à cette culture. Que je le veuille ou non, que j'ai envie de la rejeter en bloc ou pas, c'est mon pays et j'appartiens à cette culture, quoi. J'ai grandi en France et voilà, je ne veux pas aller dans un autre pays le jour où je quitterai le Koweït. C'est pour ça que je te disais, voilà, c'est si je vis encore au Koweït, si je reste au Koweït, ce serait entre la France et le Koweït. Mmh. Et sinon, c'est la maison, enfin, c'est la France, quoi.
Ouais, ça qu'on dit to feel like home, c'est hyper important. D'être bien chez soi et chez toi, bah c'est la France. Et j'avais lu aussi quelque part que en expatriation, soit tu as des ailes pour repartir et soit tu as vraiment des racines. C'est là où tu découvres en fait de quel bord tu es, quoi. Parce que finalement, on peut se dire, mais au fait, on court après quoi en fait avec tous ces voyages? Finalement, on se cherche soi. Et si on s'est trouvé, si on se rend compte qu'on est bien en France, voilà. On rentre et on se fait son petit nid et on peut être heureux en restant chez soi, quoi.
Non, mais c'est clair.
Aucun souci là-dessus. Chacun trouve son bonheur là où il le pense, quoi.
Non, c'est clair, c'est clair.
Alors peut-être que celui ou celle qui nous écoute, justement, veut s'expatrier pour la première fois, s'apprête à s'expatrier. Hein. Tu nous as dit, le Koweït, que ça peut être une super première destination si on n'a pas peur, justement, de la solitude. Quel conseil tu donnerais à cette personne? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir, toi, avant de partir?
Justement, moi, j'aurais aimé que quelqu'un s'assoie à côté de moi et me dise, Elisabeth, tu vas te sentir bien, bien seule. Donc, prends des choses pour pallier, justement, à ce côté... seule. Et en fait, moi, tout bêtement, franchement, c'est un exemple où j'ai plein d'amis qui se moquent de moi. Mais moi, une des choses que j'ai mises dans ma valise pour venir au Koweït, donc alors j'avais 25 kilos ou 30 kilos, je crois. Et figure-toi que j'ai mis une couette et une housse de couette parce que ça sentait la lessive qu'on utilise chez mes parents. Et donc, je me suis dit, il va falloir, en fait, à un moment ou à un autre, que j'ai... quelque chose qui sente, qui me rappelle chez moi, quoi. Et donc, j'ai mis ça. Et en fait, très honnêtement, j'ai aucun regret parce que c'est vrai que ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'on me dise que, en fait, ça allait être très, très dur au début, particulièrement de s'expatrier tout seul. Parce qu'on imagine que l'expatriation, ça va être l'auberge espagnole où tu vois la fête tout le temps, tous les week-ends. Moi, les premiers mois, en réalité, je passais mes journées tous les matins avec les enfants, donc des conversations avec des enfants de 5 ans. Et après, l'après-midi, je rentrais dans un appartement vide. Vide, 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 vide. Personne, personne. Et ça, c'est très, 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 très difficile. Si jamais le quelqu'un qui nous écoute est quelqu'un seul qui décide de s'expatrier, je lui dirais, franchement, il faut être très fort et très courageux parce qu'au début, c'est vraiment difficile d'être tout seul. Et ouais, j'aurais bien aimé qu'on me le dise. Et aussi, la deuxième chose, c'est que si ça ne marche pas, c'est pas grave. Mmh. Je pense qu'il faut vraiment partir avec ça en tête.
Ouais.
Moi, quand je suis arrivée au Koweït, très franchement, après une semaine, je pensais déjà à partir. Et en fait, en gros, dans mon contrat, j'ai 90 jours pour changer d'avis. Et moi, j'appelais ma mère en pleurs tous les soirs en lui disant « je vais rentrer ». Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un chat. J'ai adopté un chat au Koweït. Mmh. Parce que tous les papiers pour le ramener en France étaient plus longs que ma période d'essai. Donc, quoi qu'il arrive... J'allais rester au moins un an grâce ou à cause de ce chat. Et maintenant, ça fait 5 ans que je suis au Koweït, 5 ans que je vis avec ce chat. Et j'aurais aimé, moi, qu'on me dise, si ça marche pas, c'est pas grave, tu peux rentrer, ça fera pas de toi une nulle, ça fera pas de toi quelqu'un qui a échoué, ce sera rien du tout, c'est juste que l'expatriation n'était pas faite pour toi. Parce que, je suis très contente d'être restée, hein, mais la souffrance dans laquelle je suis restée les premiers mois, je sais pas si ça valait le coup finalement. Tu vois ce que je veux dire?
Non, mais c'est un vrai défi. C'est pour ça que je rajouterais. Je ne sais pas si t'avais d'autres points à rajouter par rapport au conseil.
Non.
Parce qu'il y a un point important, c'est justement définir vraiment pourquoi on part. Si tu vas juste pour le goût de l'aventure, eh ben, c'est difficile, c'est un vrai défi. Et après quoi tu cours, quoi? Il y a une raison. Ça peut être une raison financière. Enfin, les Français aiment pas beaucoup parler d'argent, etc. Mais pourquoi pas? Ça peut être de partir pour mettre plein d'argent de côté pour X ou Y raison. Pour s'acheter un logement, pour offrir une vie meilleure à ses enfants, pour... voilà, il y a plein, plein de raisons différentes, quoi.
Non, mais c'est clair.
Il y a plein de raisons. Mais il faut qu'il y en ait une.
Il faut qu'il y en ait une, ouais, et il faut la définir. Parce que moi, je pense qu'au début, je suis partie juste parce que j'étais en France et puis je m'ennuyais un peu. Et que voilà, il fallait que je trouve un métier, en fait. Et donc, du coup, je me suis retrouvée à trouver un métier au Koweït. Et au final, quand j'ai eu le métier, je me suis dit, ah non, mais finalement, c'est pas suffisant, quoi. Parce que partir s'expatrier, c'est pas un voyage que tu fais, en fait. C'est certes un voyage parce que tu vas découvrir une culture et tout, mais c'est surtout, en fait, c'est juste ton quotidien dans un autre pays. Donc, si tu sais pas trop pourquoi tu y es, si tu sais pas trop pourquoi tu fais ça, c'est un peu plus compliqué. Moi, c'est vrai que la raison, elle est venue après, mais c'est vrai que tant que c'est flou, ça va être compliqué parce que quand tu es en voyage, si tu arrives dans une ville finalement et que tu l'aimes pas, c'est pas grave, tu prends un bus et tu vas dans une autre. Tu changes d'hôtel, mais là, quand tu as signé un contrat et que voilà, tu t'es engagé pour un an, que tu es dans cet appartement et qu'en fait tu sais pas trop ce que tu fais là, c'est vraiment beaucoup plus difficile de rester, t'as raison.
Ouais, se souvenir pourquoi on est parti toujours. En cas de difficulté, il y en a. Parce qu'il y a les montagnes russes de l'expat, j'en parlais dans un autre épisode, mais voilà, c'est naturel. On a des hauts et des bas quand on est en France, dans notre vie quotidienne. En expat, on a des hauts et on a des bas qui sont tout aussi, si ce n'est plus intenses, en fait.
Ouais.
Merci beaucoup, Elisabeth, de ton témoignage sur le Koweït. Donc, je pense que tu as donné envie à plein de gens d'y aller parce que franchement, c'est pas une destination à laquelle on pense pour s'expatrier. Ça peut être intéressant, en tout cas.
Oui, ça peut. Bah, merci à toi, Christina, de m'avoir laissé la parole. Et oui, le Koweït, on n'y pense pas parce que c'est un pays inconnu, mais c'est pas si mal.
Tu peux nous rappeler ton blog pour les personnes qui nous écoutent, qui voudraient découvrir et lire justement les articles sur le Koweït?
C'est Lise in Koweït, Kuwait.
Donc je remettrai de toute manière dans les notes de l'épisode et vous pourrez aller découvrir donc le blog d'Elisabeth qui a une plume superbe. J'ai adoré, j'ai dévoré les articles.
Merci.
Merci Elisabeth, à bientôt.
À bientôt. Au revoir.
L'épisode 65 touche à sa fin. Merci pour votre écoute. Une pensée affectueuse à tous ceux qui voient leur projet d'expatriation reporté, en tout cas mis sur pause à cause de cette crise du Covid-19. Et à tous ceux qui sont rentrés en France et qui voient leur projet professionnel, leur avenir un petit peu incertain. Courage à vous. Je tenais à vous rappeler qu'il y a une communauté Facebook qui est absolument géniale, qui s'appelle Expat Parents. Donc forcément, qui s'adresse davantage aux parents, mais où on ne parle pas que de parentalité et d'enfants, on parle aussi de projets d'expatriation. Il y a eu dernièrement une discussion sur justement le sujet d'expatriation reportée, de retour en France incertain. Voilà, n'hésitez pas à aller sur ce formidable groupe Facebook plein de bienveillance pour échanger sur le sujet. Je profite de cette fin d'épisode pour remercier Dare Kakun. Alors, c'est le pseudo qui a été utilisé pour me laisser un avis sur Apple Podcast. Dare Kakun qui est parti donc en expatriation en Allemagne pour faire un programme d'assistanat de prof de français. Et c'est son conjoint qui l'a suivi. Et il aime beaucoup le podcast, mais il aimerait davantage de profil d'expat homosexuel, eh bien, c'est noté. C'est vrai que ce sont des profils un peu plus rares et c'est vrai que je ne me mets pas en quête de profil homosexuel. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le projet avant tout, c'est la personnalité aussi de la personne que j'interroge. Et du coup, c'est délicat de se mettre en recherche de profil de ce type, mais sache que j'ai noté et que je vais m'efforcer d'apporter en tout cas plus de diversité dans les profils que j'interroge de ce point de vue-là aussi. Et puis, une surprise, il y a 5 jours, Elsa.akp, donc là encore c'est un pseudo utilisé sur Apple Podcast, qui m'a laissé une revue sur Apple Podcast, un avis 5 étoiles. Elle dit « C'est une belle découverte, des histoires authentiques dans lesquelles on découvre la vie des expats français et de leur famille, les joies et les enjeux que représente le fait de vivre loin de son pays. J'en suis devenue addict. » Bah écoute, j'en suis ravie Elsa. N'hésite pas à partager le podcast autour de toi et merci d'avoir laissé cet avis. Si vous aussi vous souhaitez laisser un avis à Apple Podcast, hein, c'est super simple. Vous allez sur votre application et vous appuyez sur le nombre d'étoiles que vous voulez donner. Vous laissez une petite phrase pour expliquer pourquoi vous aimez le podcast. Et mon petit doigt m'a dit que sur Podcast Addict, c'est maintenant possible de laisser des reviews, alors des avis. Donc n'hésitez pas. Plein de courage pour ce confinement qui se prolonge. Et je vous dis à bientôt dans vos oreilles.